savoir plus, votre rendez-vous d'information avec le soutien du Conseil départemental du Pas-de-Calais, chaque jeudi de 11h à midi sur Radio Plus.
Il faut savoir.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Savoir Plus. Cette semaine, nous allons tout d'abord parler de l'appel à projet supporter, un appel à projet de la Fondation Territoriale des Lumières. Et pour en parler avec nous, j'accueille Florence Quin. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous sur Radio Plus. Vous êtes déléguée de la Fondation Territoriale des Lumières qui vient donc de lancer cet appel à projet supporter. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de cet appel à projet, pouvez-vous nous en dire plus sur la Fondation Territoriale des Lumières qui est en quelque sorte, si j'ai bien compris, une poursuite du programme Mine d'idées de la Fondation de France?
Tout à fait. Donc c'est une fondation qui est toute jeune hein, puisqu'elle vient de fêter ses 2 ans. Elle a été créée à l'initiative de 10 partenaires privés et parapublics qui sont implantés sur le territoire. Il y a 5 bailleurs HLM, notamment Habitat du Nord, Habitat Hauts-de-France, Maisons et Cités, Neurésy et CDC Habitat, mais également d'autres partenaires des acteurs économiques comme le groupe hospitalier l'ANAC, le groupe du réseau de soins Chiliéris, l'Agence nationale de garantie des droits des mineurs qu'on connaît également en Bassin Minier puisque c'est l'agence qui gère le statut du mineur, et RAMRI, le groupe de BTP RAMRI. Donc des entreprises qui souhaitaient s'impliquer sur le territoire avec une ambition commune de lutter contre toute forme de précarité sur le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, et qui voulaient financer des projets portés par les habitants pour soutenir leur envie d'agir concrètement dans leur quartier ou sur leur territoire.
Alors pourquoi avoir décidé de faire un appel à projet sur l'éco-citoyenneté?
Alors tous les ans, on décide de mettre en place, de lancer un appel à projet thématique, c'est-à-dire de faire un focus sur une thématique. L'année dernière, on avait décidé de travailler sur le thème de la santé. Et cette année, on a décidé le thème de l'éco-citoyenneté. Alors pourquoi? Parce qu'au moment où on a décidé ce thème, il y avait beaucoup de mobilisation des jeunes, des manifestations pour lutter, pour inviter les gouvernements à faire davantage pour lutter contre le changement climatique. Et on s'est dit que ces jeunes, peut-être qu'ils avaient envie aussi d'agir concrètement dans leur quartier pour inviter à des changements d'habitude, hein, de consommation, etc. Et donc, on s'est dit que notre fondation pouvait venir en coup de pouce auprès de ces jeunes pour les aider dans cette initiative.
Alors, à qui s'adresse cet appel à projet?
Alors, il s'adresse pas seulement aux jeunes, mais c'est vrai qu'on cible davantage les jeunes, à tous les habitants du bassin minier qui souhaiteraient mettre en place un projet, qui ont une idée, un projet en lien avec l'éco-citoyenneté. Donc l'éco-citoyenneté, c'est notre souhait, c'est de contribuer vraiment à la prise de conscience des défis écologiques et vraiment encourager les habitants sur le territoire à s'engager au profit de la préservation de l'environnement et en vue de lutter contre le changement climatique. Donc il s'adresse à tous les habitants, notamment les jeunes, donc tout habitant du bassin minier qui souhaite porter un projet pourra déposer un projet auprès de la fondation sous réserve qu'il puisse porter ce projet via une structure d'intérêt général.
Alors justement, Florence, qu'est-ce que vous pouvez nous préciser les différents critères pour pouvoir postuler à cet appel à projet?
Alors, il y a des critères d'éligibilité et des critères de sélection. L'éligibilité, c'est bien sûr le projet. Il doit répondre à ce thème de l'éco-citoyenneté et il doit se dérouler sur le territoire du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. Donc, une petite précision, ce territoire, c'est vraiment le croissant minier c'est un territoire qui est très attendu, hein, qui va de Béthune-Bruay jusqu'à Valenciennes et au-delà, jusqu'à la frontière belge. Il doit être porté par une personne morale d'intérêt général, parce que ce sont des fonds qui viennent du mécénat. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire au minimum porté par une association.
Donc, ça peut être une association créée pour cette occasion, justement.
Oui, ou pas seulement. Par exemple, ça peut être un collectif d'habitants ou de jeunes qui souhaitent déposer un dossier, qui pourront s'adresser au centre social de leur quartier ou à une autre association. C'est pas forcément un centre social, à une autre association qui va les aider à porter ce projet auprès de la fondation.
Alors Florence Quin, pour mettre en place cet appel à projet, vous avez fait appel à plusieurs partenaires, comme les fédérations de la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais, du Nord et du Pas-de-Calais, et les centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais. Pouvez-vous nous en parler ?
Oui, parce qu'on a considéré que c'était des structures qui allaient pouvoir, enfin qui nous rejoignaient tout à fait dans l'ambition de cet appel à projet et qui allaient pouvoir largement diffuser cet appel à projet auprès de leurs adhérents. Donc la Fédération des centres sociaux du Nord et du Pas-de-Calais, évidemment, puisque il y a des centres sociaux sur tout le territoire du bassin minier, et la Ligue de l'enseignement, bien sûr, parce que ses adhérents sont des associations qui sont pas forcément spécialisées et qui sont situées sur l'ensemble du territoire. Voilà, c'est pour ça.
Alors, qu'est-ce que peuvent gagner les lauréats de cet appel à projet ?
Alors, on a doté cet appel à projet d'un montant global de 50 000 euros de soutien. Donc, c'est une enveloppe qui nous permettra de soutenir les projets. Donc, ça veut dire que l'ensemble des projets que nous présélectionnerons et sélectionnerons ensuite devra partager cette enveloppe de 50 000 euros selon les projets. Mais au-delà, ce qu'on demande aux porteurs de projets, c'est d'abord de déposer une lettre d'intention, c'est-à-dire que si leur projet n'est pas encore tout à fait mûr, mais ils ont une idée assez précise quand même du projet, on va leur demander de déposer leur projet, leur lettre d'intention avant le 26 juin 2020. Ensuite, sur la base de ce qu'ils nous auront présenté comme dans la lettre d'intention, on va les présélectionner et ensuite on va les accompagner. On va les accompagner à la rédaction de leur dossier complet. De façon à ce que, donc c'est important aussi qu'on puisse souligner cet accompagnement à la rédaction du complet. C'est pas seulement un soutien financier, c'est aussi un accompagnement des habitants sur la formalisation de leur dossier.
Alors effectivement, on va revenir dans quelques instants sur cet accompagnement. Vous ciblez particulièrement, on l'a compris, les jeunes générations dans cet appel à projet. Est-ce que vous estimez que c'est par ce biais des jeunes générations où viendront les vraies solutions ?
Pas seulement, mais en grande partie aussi, parce que bon, on sait que les jeunes aujourd'hui, depuis qu'ils sont petits, sont très sensibilisés aux questions de l'environnement. Et puis, ils ont le dynamisme et l'envie aussi d'agir. Donc, ça nous paraît important de leur donner comme message que s'ils ont envie d'agir, et ben on peut les accompagner. Mais bien sûr, on ne vise pas seulement. Enfin, les projets ne seront pas seulement portés par les jeunes. Ils peuvent être portés aussi par des habitants plus âgés. Et alors, on a une accession du jeune qui est très large, puisque ça peut être un collégien, un lycéen, un étudiant, donc jusqu'à 30 ans.
Puis il suffit d'être un petit peu jeune aussi dans sa tête.
Tout à fait, exactement.
Alors, quelles sont les différentes échéances de cet appel à projet supporter ?
Ouais, donc je vous en parlais. Donc là, il a été lancé le 6 mai. Les porteurs de projets ont encore un bon mois avant de déposer leur lettre d'intention. Mi-juillet, on se réunira en comité de présélection pour examiner l'ensemble des lettres d'intention que nous recevrons, et ensuite nous reviendrons vers les porteurs de projets pour les accompagner vers la rédaction du dossier complet. Ce dossier, il faudra qu'il soit déposé le 16 octobre. Donc voilà, on laisse quand même pas mal de temps pour que les porteurs de projets puissent bien mûrir leur projet. En novembre, il y aura une nouvelle réunion, mais là cette fois de sélection, une réunion du comité de sélection, et on proclamera les résultats en décembre avec la remise des prix. Donc on s'oriente plutôt sur des projets qui seront mis en place courant de l'année 2021.
Très bien. Alors on sait que les montages de dossiers de subventions sont loin d'être évidents. Est-ce qu'avant de déposer leur dossier ou même leur lettre d'intention, les candidats peuvent demander des précisions par rapport aux questions posées dans le dossier ?
Oh oui, tout à fait. Donc sur le site internet de la Fondation, il y a un numéro de téléphone pour nous joindre. Donc s'ils ont des questions, et également il y a une adresse email. Donc s'ils ont des questions, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous les poser pour qu'on puisse y répondre. On n'a pas parlé des critères de sélection des projets. Je pense que c'est important. Oui. Parce qu'en fait, c'est à partir de ces critères qu'on va pouvoir considérer si les projets entrent dans le cadre de l'appel à projet. Donc il faut que ces projets répondre à des besoins ou des attentes des habitants. Donc ça paraît évident, hein, vraiment, que c'est pour ça qu'on demande dans la lettre d'intention, est-ce que les porteurs de projets expliquent la genèse de leur projet, comment leur est venue l'idée. Il faut que ces projets, deuxième critère, qui impliquent ou visent à impliquer les habitants du territoire, c'est-à-dire que ce ne soit pas mis en place par une personne, mais par un collectif d'habitants et que ça concerne une majorité de personnes à l'échelle du quartier, par exemple, que ça mobilise effectivement des jeunes dans le pilotage et la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'on souhaite vraiment que dans la gouvernance du projet, les jeunes soient présents et qu'ils participent à la prise de décision dans l'orientation du projet, à sa mise en œuvre. Et puis que ce soit des projets qui aient un impact sur le comportement des habitants et que ça permette de favoriser de nouvelles coopérations entre les acteurs locaux. Voilà les critères de sélection, les 5 critères de sélection, mais vous les retrouverez aussi sur notre site internet.
On rappelle d'ailleurs l'adresse du site internet, c'est le www.fondationterritorialedeslumieres.org. Alors, Florence Quin, l'an dernier, vous aviez proposé un autre appel à projet concernant l'innovation et la prévention en matière de santé, avec notamment comme lauréat l'association Second Départ, située à Neuilly-Mines, qui œuvre dans le domaine de la prévention des addictions. Qu'est-ce que leur a permis justement de réaliser l'appel à projet l'an dernier ?
Ben, ça a été une partie en financement de la maison Second Départ. En fait, ils ont ouvert une maison Second Départ à Ycourt, qui a pour vocation la prise en charge des malades par la création d'une structure leur permettant d'avoir un lieu où se poser. C'est un lieu d'accueil, en fait, à la fois des personnes qui sont dans une démarche de soins, mais également de leur famille. Et donc, on a contribué au financement de l'ouverture de cette maison à Ycourt.
Et il y a bien sûr eu d'autres lauréats à cet appel à projet l'an dernier, qu'on peut retrouver également sur votre site internet. Alors Florence Quin, pour terminer, où et comment peut-on candidater ?
Alors, c'est très simple. Je vous invite à aller soit sur le compte Facebook de la Fondation Territoriale des Lumières. Il y a un lien vers notre site internet ou directement sur notre site internet fondationterritorialedeslumieres.org, vous verrez, il y a un onglet supporter et vous trouverez toutes les informations relatives à l'appel à projet supporter sur le site internet. Et n'hésitez pas effectivement à nous contacter si vous avez des questions.
Eh bien, merci beaucoup Florence Quin d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes déléguée de la Fondation Territoriale des Lumières qui a donc lancé cet appel à projet supporter dédié à l'éco-citoyenneté.
Merci à vous, merci de m'avoir accueilli sur votre antenne.
Et pas de problème, et puis on espère à très bientôt, et puis on espère que pour vous aussi, le déconfinement va commencer, va bien se dérouler, parce que j'imagine que vous êtes toujours en télétravail actuellement.
Tout à fait, mais on reprend le travail la semaine prochaine.
La semaine prochaine, voilà. On est en bonne voie, effectivement. Merci oui, en tous les cas, Florence, d'avoir répondu à nos questions. Puis si vous recherchez, vous qui nous écoutez, les liens de la Fondation Territoriale des Lumières, les liens internet, ils sont également présents sur le site internet de Radio Plus. Très bonne journée.
Merci à vous, au revoir.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association ? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
Restez avec nous dans quelques instants, nous allons parler du réseau des médiathèques et bibliothèques L'Esperluette, présent sur le territoire de la communauté de communes de Flandre-Lys. Madonna, tout de suite. Madonna, à l'instant sur Radio Plus. On va parler à présent dans votre émission Savoir Plus du réseau de médiathèques et de bibliothèques L'Esperluette sur le territoire de la communauté de communes Flandre-Lys, créé en 2017 et qui regroupe donc 8 médiathèques et bibliothèques. Le réseau commence à rouvrir très progressivement pendant cette période de déconfinement et pour l'instant seule la médiathèque de Merville accueille à nouveau du public. Comment fonctionne ce réseau? Comment s'est-il adapté au confinement puis au déconfinement et comment le public réagit-il? Autant de questions auxquelles répondent Catherine Willems et Laurent Lemaître, les coordinateurs du réseau L'Esperluette, interviewés par Julien Maille.
C'était finalement les rares lieux culturels qui étaient autorisés à rouvrir lors de cette première phase de déconfinement. Ce sont les médiathèques, des lieux qui sont désormais un peu éloignés des bibliothèques traditionnelles. On n'y vient plus uniquement pour lire et emprunter des livres, mais on peut aussi y vivre des rencontres artistiques, participer à des ateliers, emprunter des jeux de société, etc., etc. Les possibilités y sont donc nombreuses et fortement restreintes, forcément, depuis le début du déconfinement. Pour s'intéresser à ce sujet, direction le territoire de Flandre-Lys pour y voir plus clair. Catherine Willems, bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Vous êtes coordinatrice du réseau Esperluette qui est composé des 8 médiathèques et bibliothèques des communes du territoire de la communauté de communes Flandre-Lys et vous êtes avec nous pour parler de l'organisation du réseau Esperluette face au déconfinement. Alors avant de parler de cette organisation, j'aimerais qu'on présente le réseau Esperluette qui finalement est tout jeune, il n'a pas encore 3 ans.
Oui, c'est ça, on a ouvert ce réseau en octobre 2017. Donc c'est tout jeune, un tout jeune réseau qui est constitué de 8 de nos bibliothèques, en fait, des 8 communes composant l'intercommunalité.
Les bibliothèques de ces communes étaient évidemment en place depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui a changé pour vous le travail en réseau?
Le travail en réseau, c'est tout d'abord un catalogue commun, c'est-à-dire que chaque bibliothèque avait initialement ses propres collections. Là, les collections sont mises en commun. Ça fait à peu près 120 000 documents qui sont mis en commun sur le territoire. Donc ça, c'est une base de données qui est beaucoup plus importante et donc qui permet au lecteur d'avoir beaucoup plus de choix. C'est aussi une navette qui permet de relier toutes nos bibliothèques 2 fois par semaine. Donc le lecteur, derrière son ordinateur, fait une réservation et peut rapatrier son livre dans la commune de son choix, dans une des 8 bibliothèques. Et la navette s'occupe de livrer, entre guillemets, les ouvrages, les documents dans la bibliothèque du choix du lecteur, quoi, en fait.
Et puis, je le disais aussi en introduction, ce sont aussi des animations qui sont proposées en temps normal régulièrement dans ces médiathèques et ces bibliothèques, des animations propres à chaque lieu, mais aussi des animations impulsées par la communauté de communes.
Oui, c'est ça. Chaque bibliothèque, bien sûr, a ses animations propres, parce que c'est important que chacune d'entre elles garde son identité. Mais sur le réseau, on a 2 temps forts, la nuit de la lecture en janvier. On a également l'Esperlufête qui marque justement notre anniversaire chaque année en octobre, sur la naissance du réseau. Et puis bien sûr, les artistes en résidence qui ont beaucoup de projets qui mènent en bibliothèque exclusivement. Et là, prochainement, le Ballet du Nord qui va aussi œuvrer dans nos bibliothèques pour des lectures dansées.
Alors tout ça a été fatalement mis en pause durant cette période de confinement. Le déconfinement, il est actif depuis 2 semaines maintenant, depuis le 11 mai dernier. Comment s'est organisé le déconfinement dans vos médiathèques et vos bibliothèques?
Le déconfinement, c'était aussi quelque chose qui était décidé par chacune d'entre elles. On a 7 bibliothèques qui ont décidé de mettre en place une formule Drive avec des réservations de documents sur le portail ou sur une application Bib en poche sur les smartphones. Et une seule bibliothèque, qui est celle de Merville, qui a décidé d'expérimenter plutôt ce service au public, avec un accueil au public, bien sûr rigoureusement dans les règles sanitaires, et une signalétique bien sûr partout, pour que les lecteurs puissent bien venir chercher ses ouvrages ou choisir un ouvrage avec pas mal de consignes de sécurité, quoi, en fait.
On va parler évidemment de tout ça dans quelques instants. Moi, j'aimerais qu'on parle dans un premier temps de ce drive. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement?
En fait, il y a le drive, il y a un côté, les documents que l'on ramène à la bibliothèque. Donc le lecteur dépose ses ouvrages à l'entrée de la bibliothèque. Dans une caisse. Ces ouvrages sont mis en isolement pour une semaine. Et il y a donc un circuit souvent qui est fait pour les retraits cette fois. Donc le lecteur, lui, a fait ses réservations sur le portail ou par téléphone, réservation d'ouvrage. Il a calé un rendez-vous avec sa bibliothécaire. Et donc, il a des ses livres ou dans un sachet à son nom. Ils sont sur une table. Il a juste à les retirer, en fait. Tout a été déjà badgé avant par les bibliothécaires. C'est vraiment un retrait, un dépôt qui se fait à la minute, on va dire, quoi.
Oui, il n'y a pas finalement de situation de stationnement pour attendre tranquillement sa livraison de livres.
Tout est pensé justement pour éviter ça. Dans la formule Drive, c'est vraiment quelque chose de un peu c'est vraiment limiter au maximum à la fois les contacts mais aussi les temps de stationnement, bien sûr. Ouais.
Voilà, à l'instant, c'était Catherine Willems qui répondait aux questions de Julien Maille, notamment par rapport au fonctionnement du Drive dans le réseau de médiathèques L'Esperluette sur le territoire de la communauté de communes Flandre-Lys. Alors, il y a une médiathèque dans le réseau qui a recommencé à accueillir du public, c'est celle de Merville. Et tout de suite, on retrouve Laurent Lemaître, qui est également le responsable de cette médiathèque, et toujours en compagnie de Julien Maille.
La FM que j'aime, Radio Plus.
Laurent Lemaître est le co-coordinateur du réseau Esperluette sur le territoire de la communauté de communes Flandre-Lys. Il dirige également la bibliothèque de Merville, seule bibliothèque du territoire à accueillir de nouveau du public depuis le déconfinement. Il nous parle de l'organisation qu'il a dû mettre en place.
Bon, en fait, j'ai pas ce qu'on veut dire que dès que le confinement était connu, on savait qu'on ne pourrait pas rouvrir avec des mesures habituelles et normales. Donc on a travaillé quand même assez vite sur le projet de réouverture. Et on s'est aussi calé sur les recommandations de l'association professionnelle, hein, qui est l'ABF, l'Association des bibliothécaires de France, en fait, pour pouvoir ouvrir dans les meilleures conditions. Alors on a réouvert avec des mesures assez drastiques, hein. C'est vrai qu'on ne peut accéder que 10 personnes à la fois, en fait, dans la bibliothèque, pour un temps limité à 15 minutes par personne, pour laisser le flux se faire de la manière la plus rapide possible. Pas de stagnation dans la bibliothèque, hein. C'est-à-dire qu'avant on pouvait rester toute une après-midi pour jouer aux jeux de société, ben là c'est pas possible, en fait. C'est vraiment... Et puis respecter bien sûr les distances de sécurité, gel hydroalcoolique obligatoire après la restitution des documents pour pouvoir entrer dans l'enceinte de la médiathèque. Il faut aussi respecter par exemple 3 personnes maximum dans chaque espace pour pas qu'il y ait trop de personnes dans les mêmes espaces. Et puis globalement, il y a aussi tout un parcours fléché à suivre.
Le retour des usagers, le retour du public, c'est une vraie joie pour vous et vos équipes.
Ah ouais, tout à fait, ouais. Ah ben non, mais même les usagers sont vraiment contents de revenir nous voir, hein, parce que forcément, après 2 mois de de mise en quarantaine, y compris du personnel et des lieux, on a quand même beaucoup de plaisir à les retrouver. Alors au début, c'était un peu plus timide, faut quand même dire ce qui est, c'était timoré. Je pense que le Covid étant passé par là, les gens avaient un peu de crainte, mais maintenant, ça commence quand même... À force de communication et de distillation, en fait, de l'information, je pense que les gens commencent à être rassurés. Les documents qui sont retournés, de toute façon, systématiquement, sont mis en quarantaine. Donc, pendant 10 jours, on n'y touche pas. Ils sont tous désinfectés, on désinfecte. Donc, il n'y a vraiment aucun problème de sécurité sanitaire lorsque vous venez à la bibliothèque.
D'autant, on le rappelle, que l'usager ne peut pas manipuler les livres. Il se contente de faire son retrait et ça s'arrête là. Il n'y a pas cette possibilité de toucher un petit peu partout les livres qui sont à disposition.
C'est ça. En fait, quand ils rentrent dans la bibliothèque, il faut à peu près qu'ils soient certains de ce qu'ils veulent emprunter pour prendre vraiment l'objet qui... Mais après, comme je dis toujours, quand vous faites vos courses dans un supermarché, vous prenez un paquet de pâtes, vous ne savez pas non plus si la personne d'avant a touché le paquet de pâtes. Donc c'est... Bon, on est un peu dans la même philosophie. Il faut être vraiment très vigilant, très scrupuleux. Mais ça, c'est aussi... On éduque les gens qui viennent aussi dans la médiathèque pour bien leur expliquer les règles sanitaires. Mais ça se passe vraiment très bien. D'abord, les gens sont contents de revenir. Et puis ils sont vraiment très respectueux de l'application des consignes. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qui s'est faite quand même. Et c'est vraiment dans l'intérêt de la réouverture d'un service public. Et ça, tout le monde agit dans le même sens. C'est plutôt assez satisfaisant.
Alors vous êtes co-coordinateur du réseau Esperluette. Vous avez été donc la première bibliothèque à rouvrir physiquement au public. Est-ce que du coup les autres médiathèques du réseau vous consultent aussi pour avoir un retour d'expérience et puis pour tenter peut-être de rouvrir prochainement?
Ouais. Alors pour l'instant le retour d'expérience, on va encore attendre une petite quinzaine de jours pour pouvoir faire en sorte que chacun puisse expérimenter aussi les services qui sont mis en place par les uns et les autres. Après, c'est une question aussi de moyens humains. Il faut dire que aussi à Merville, on a assez de personnel pour ouvrir, parce que ouvrir au public, ça veut dire qu'il faut plus de personnes pour accompagner les gens. Il faut quelqu'un en retour, quelqu'un qui est posté pour demander pour que toutes les consignes soient respectées, hein, le lavage des mains et ceci, cela. Donc en fait, les autres bibliothèques ont peut-être moins de personnel, donc c'est un peu normal qu'elles passent plus par le système intermédiaire du Drive. Donc je pense qu'on fera une réunion d'équipe globale pour qu'on puisse échanger les uns les autres sur les pratiques, sur ce qu'on a pu mettre en place, et pour voir ensuite effectivement comment on peut réouvrir tous de la meilleure des manières en échangeant sur nos pratiques et sur nos retours d'expérience. Mais je pense que le système de Drive, dans un premier temps, pour ceux qui ont moins de personnel et de moyens, c'est un très bon système aussi pour pouvoir réouvrir le service public dans les meilleurs, en respectant les règles sanitaires les plus optimales.
Et oui, pas simple hein, de rouvrir des médiathèques au public, comme vous venez de l'entendre, mais tout de même également le plaisir de se retrouver et de se voir en vrai avec ce déconfinement progressif. Alors pendant le confinement, les versions numériques des médias ont joué à plein leur rôle, comme va l'expliquer Catherine Williams, une des responsables du réseau L'Esperluette de la communauté de communes flandreliste. Hein. Je vous rappelle qu'on parle depuis tout à l'heure de la réouverture des médiathèques du réseau L'Esperluette, qui est progressive bien évidemment, vous l'avez compris, réouverture donc qui justement passe également par des mesures assez strictes pendant ce déconfinement.
On continue d'évoquer la réouverture des médiathèques et bibliothèques du réseau Esperluette sur le territoire de la communauté de communes Flandre-Lys. Et dans la suite de cette interview, Catherine Willems, la co-coordinatrice du réseau Esperluette, nous parle notamment de l'offre numérique. Pendant ce confinement, vous aviez boosté l'offre numérique avec notamment la possibilité de consulter plus de films, plus de magazines en ligne via le portail numérique dédié. Est-ce que cette augmentation est toujours en vigueur actuellement ?
C'est vrai que pendant le confinement, la communauté de communes Flandre-Lys a offert 2 films supplémentaires à chaque lecteur. Donc l'offre de cinéma est passée de 3 à 5 films. Et on a eu un succès, mais au-delà de nos espérances, si vous voulez, on était à peu près en février à 180 films regardés pour 450 films qui ont été regardés en mars, 607 en avril. Ce qui fait qu'au retour du confinement, on a alerté notre président pour lui dire que la consommation cinéma de l'année était épuisée et nous ne sommes qu'au mois de mai. Donc, super succès et notre président, nos élus, bien sûr, ont abondé dans le sens de remettre des crédits sur le cinéma pour que nos lecteurs puissent avoir jusqu'en décembre leurs 3 films, parce que finalement on est reparti sur les 3 films pour chaque lecteur jusqu'à la fin de l'année. On a eu un grand succès, beaucoup de connexions, plus de 1000 personnes ont consulté pendant le confinement l'offre numérique Flandre-Lys, mais pas seulement le cinéma, mais l'e-learning aussi. 592 consultations sur l'année 2019. On est passé à 1017 consultations d'e-learning là sur les 5 mois de 2020. Et pour les cours en ligne, là on a explosé les compteurs parce que 93 cours en ligne en février, 330 en mars et 440 au mois d'avril. Vous voyez, donc c'est vrai qu'on a pendant le confinement eu une offre numérique incroyablement consultée. Et pour la presse, par exemple, puisqu'on a aussi la presse en ligne, 123 en février, ce qui était un peu notre cadence. En mars, 314 consultations et 374 en avril. Donc, on a vraiment les compteurs qui ont explosé pendant ce confinement et avec une demande qu'on a pu, à laquelle on a pu répondre.
Alors que le déconfinement est désormais entamé, est-ce que le public se presse à nouveau dans les bibliothèques? On a déjà eu un élément de réponse tout à l'heure avec Laurent Lemaître sur l'exemple de la bibliothèque de Merville ouverte au public. Mais ce système de drive fait-il l'unanimité? On en parle avec Catherine Willems, la co-coordinatrice du réseau Esperluette, qui nous dresse aussi quelques perspectives d'avenir.
Ce qui était important pour eux, c'était de rendre les ouvrages qu'ils avaient depuis 2 mois et demi à la maison. Pour eux, la première chose, c'était celle-là, parce qu'ils voulaient que le réseau continue de tourner. Il y a un engouement de rendre les ouvrages. Et ensuite, pour les retraits, les réservations sont reparties, mais progressivement cette fois. C'est vrai que on a remarqué ça, que d'abord, un empressement à rendre les livres empruntés. Et par contre, oui, comme je vous disais, pour les réservations d'ouvrages sur le portail, ça reprend progressivement.
Ça reprend progressivement aussi parce que le système de navette que l'on expliquait en début d'entretien, donc une navette qui permet par exemple de réserver un livre à Merville et de venir l'emprunter, le retirer dans la bibliothèque de l'Avanti, eh bien à l'heure actuelle, ce système de navette est suspendu, c'est ça ?
C'est ça, la navette est suspendue, mais on a permis deux choses. Pour les personnes qui ne sont pas mobiles ou qui ont des difficultés de se déplacer, à l'échelle de la commune, il y a un portage de livres à domicile pour 3 bibliothèques. Ça, c'est une chose. Et pour nos lecteurs, il est possible de se déplacer dans la bibliothèque. En fait, la navette ne relie pas nos bibliothèques. Mais il est possible pour le lecteur qui voit que l'ouvrage lambda est disponible à la bibliothèque de Merville alors qu'il habite à Averskerk, il peut prendre sa voiture et aller chercher l'ouvrage à Merville. C'est vrai que la navette, le livre ne se déplace pas, mais le lecteur peut se déplacer et aller chercher l'ouvrage dans la bibliothèque où il est disponible. Ça, c'est important de le savoir.
La suite du déconfinement va dépendre bien sûr des annonces qui seront faites, notamment ce jeudi 28 mai par Édouard Philippe, le Premier ministre. En supposant que tout aille dans le bon sens, quelle va être la suite du plan de déconfinement pour vos bibliothèques et médiathèques ?
Là, la consigne pour l'instant, la consigne du président, c'est de continuer cette formule drive pour l'été. Et de reprendre un fonctionnement normal à la fin du mois d'août, début du mois de septembre, avec la navette Flandre-Lys, bien évidemment. Remettre un retour à la normale plutôt début septembre, quoi.
Et vous espérez prochainement aussi, alors visiblement plutôt effectivement en septembre, voire même au-delà, mais reprendre les animations, les rencontres qui vont forcément aussi rassembler du monde dans des espaces qui sont parfois un petit peu petits. Est-ce que vous envisagez ça aussi dans votre plan de retour à la normale ?
On est optimiste sur le service culturel Flandre-Lys. C'est-à-dire qu'on a tout détricoté là pendant le confinement sur les événements culturels et je suis en train de tout retricoter pour le second semestre comme si tout allait bien aller. On espère que ça sera le cas, mais en fait, on est prêt pour octobre en fait. On a un événement qui s'appelle Esperluette qui sera sur le thème de la musique où on est en train de booker toutes nos prestations, dans toutes nos bibliothèques. On a ce festival Conteur en campagne, et nos conteurs, pour certains, seront en bibliothèque aussi. Vraiment, l'actualité culturelle, bibliothèque et hors les murs, on est en train de concocter au territoire un second semestre assez riche. Donc, on espère vraiment, on croise les doigts et on espère qu'il n'y aura pas une deuxième vague et de nouveau un confinement et puis un blocage sur la programmation culturelle. Vraiment, on est optimiste en tous les cas.
Et pour terminer cet entretien, Laurent Lemaître et Catherine Willems, coordinateurs du réseau Esperluette, le réseau des médiathèques de Flandre-Lys, nous communiquent leur coup de cœur littéraire.
Je suis en train de lire un très bon ouvrage qui est plutôt historique, c'est un essai historique, qui s'appelle « Les deux patries » de Jean de Vigry, et grand historien malheureusement décédé en décembre de 2019. Donc je recommande en fait, voilà. C'est un très très bon ouvrage qui s'appelle « Les deux patries » de Jean de Vigry.
Alors le mien, c'est aussi celui de Thérèse de la médiathèque de Merville. C'est « Nos rendez-vous », justement, « Nos rendez-vous » de Eliette Abécassis, c'est un joli roman d'amour qui est sorti récemment sur fond des années 80, une belle passion d'amour contrariée bien sûr, des rendez-vous manqués où les deux protagonistes se perdent et se retrouvent. C'est très très sympa à lire et puis 30 ans de vie pour ces deux personnages, mais ça je peux pas vous donner la fin, mais je pense que c'était un bon conseil de lecture.
Voilà donc pour ces conseils prodigués à la fois par Catherine Willems et Laurent Lemaître, les coordinateurs du réseau L'Esperluette, réseau de médiathèques et de bibliothèques du territoire de la communauté de communes Flandre-Lys, qui reprennent progressivement leur activité normale hein, pendant cette période de déconfinement. Et donc un retour à la normale prévu pas avant le mois de septembre, comme vous avez pu l'entendre. Ils étaient tous deux donc interrogés par Julien Maille de Radio Plus.
Avec parano, de pas grand chose, mais pourquoi s'entremêler entre lui et moi? C'est plutôt déplacé et frustrant, car jalousie, ton nom est bien trop joli. Moi j'ai peur que tu l'aimes, jalousie me
Angèle sur Radio Plus avec Jalousie, 11h passées de 43 minutes, on passe à l'actualité départementale. Conseil départemental du Pas-de-Calais vient de décider que l'accès à la restauration se fera à titre gracieux pour l'ensemble des collégiens et collégiennes des collèges publics, cela sans aucune condition de ressources. Il s'agit pour le département d'apporter un maximum de solutions aux familles tout en soutenant leur budget particulièrement éprouvé par la crise. Cantine gratuite donc jusqu'à la fin de cette année scolaire dans le Pas-de-Calais. Près de 250 000 masques de protection sont distribués depuis le 18 mai aux structures œuvrant dans les domaines du logement et de l'insertion dans le département du Pas-de-Calais. Il peut s'agir des centres communaux d'action sociale, des associations, des entreprises ou des foyers d'accueil d'urgence. Tous sont invités à retirer leur dotation dans les différentes maisons du département Solidarité présentes sur l'ensemble du territoire. Alors la préfecture du Pas-de-Calais indique que des guides pratiques post-confinement concernant la pratique du sport sont disponibles sur le site internet du ministère des Sports. Des guides très concrets hein, qui vous expliquent les gestes barrières à adopter. Si vous souhaitez retrouver ces guides, vous vous rendez soit directement sur le site du ministère des Sports, soit vous vous rendez sur le site de la préfecture du Pas-de-Calais dans la rubrique actualité. Vous allez retrouver ces informations donc sur le site pas-de-calais.gouv.fr.
Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup. Je sais que t'es là pas loin, même si c'est faux. Les fous c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là?
Le Louane sur Radio Plus à 11h, passé de 48 minutes. Et on poursuit avec l'actualité départementale. 3331 chéquiers de 52,50 € remis sur l'ensemble du territoire départemental pour l'urgence alimentaire. La préfecture du Pas-de-Calais a annoncé la distribution dans le département donc de chèques d'urgence alimentaire d'une valeur totale de 175 000 € environ. Ils sont distribués dans les centres communaux d'action sociale du département. Alors, une information qui ne concerne pas directement le département, mais la région, ce sont les essais cliniques d'hydroxychloroquine qui sont suspendus dans les Hauts-de-France, les essais Discovery et e-Covid, sur décision des promoteurs de ces études. Les hôpitaux de Lille, Amiens, Tourcoing, Valenciennes et Compiègne ne proposent plus de traitement par hydroxychloroquine aux nouveaux patients infectés par le coronavirus, vous le savez, à cause de l'inefficacité et la dangerosité de ces produits qui a été soutenue par différentes études très récentes. Cette dernière information qui concerne la commune d'Avion, des ordinateurs pour aider à la poursuite de la scolarité ont été déposés au sein de la résidence Jacques Brel. Les éducateurs justement ont déposé un dossier auprès de la Fondation de France afin d'obtenir une dotation permettant l'achat de matériel. Vous le savez, beaucoup d'enfants et de jeunes adolescents ont décroché pendant cette période de confinement et sont donc un peu les oubliés de l'éducation nationale. En tous les cas, il a été très difficile pour les professeurs qui s'en occupent de pouvoir les suivre. De même, pas mal de difficultés également du côté des parents. Donc forcément, des situations assez compliquées à gérer. Raison pour laquelle ces éducateurs ont déposé ce dossier auprès de la Fondation de France. Affaire à suivre donc. Voilà, c'est la fin de cette émission Savoir Plus. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous allez retrouver le Flash Info de midi. Je vous souhaite une très bonne matinée. Fin de matinée à l'écoute de Radio Plus. Un très bon appétit, bien sûr.
I tried to reach for you, but you have closed.